sous les arches, plate et double, du pont de l'autoroute, le trafic des poids lourds y résonne dans un long tremblement continu. L'eau est sale maintenant, moins turbide, plus rapide, mais surtout couverte par une fine poudre. Une poussière épaisse comme grasse, une écume de crasse qui charrie des papiers, des feuilles, des mégots, une bouteille à la dérive. Un ticket de métro parmi des immondices, une brique de lait, des sachets de bonbons éventrés, un parfum d'excréments, je nage vers l'autre berge en quête d'une eau plus claire.
Derrière une partie d'écluse encadre un barrage. Pour l'annoncer au batelier, des bouées forment une ligne de balises jaunes où se reposent les mouettes. Le courant m'y emporte. Sur le côté, les abords du bassin de l'écluse sont dessinés comme un jardin public, dont j'imagine des pelouses impeccables et tranquilles. Les rameaux agités d'un grand sol pleureur frémissent au moindre souffle devant le calme de petites maisons de briques et de meulières. Une péniche ronronne en attendant la fin de la bassinée quand je suis précipité dans une chute inattendue. Je tombe, surpris dans un déversoir invisible et silencieux. Entraîné dans un court toboggan d'eau blanche, je lâche mon sac. Quelques mètres plus bas, je finis sur un radier bouillonnant. L'eau m'y retient sous la chute, le remous me refoule sous une douche froide, une vague creuse me maintient sous un torrent d'eau blanche, je me dégage en forçant contre le courant qui reflue au pied de ce seuil imprévu. En poussant sur les jambes, en nageant sous la vague pour échapper au tourbillon. Quand j'émerge plus bas, quelqu'un s'agite au bord de l'eau. Accouru sur la berge, l'éclusier m'insulte, mais le flot de la Seine m'emporte à la poursuite de mon baluchon.
En débouchant d'un pont, j'aperçois les pontons de la brigade fluviale. Les bateaux des gendarmes sont amarrés sous de grands platanes aux écorces pelées. Je m'approche en silence, derrière mon baluchon. Je viens nager au ras des baraquements, en frôlant les pontons, entre les coques bleues des vedettes rapides. Je glisse sous les fenêtres, je nage comme un voleur. Quand je dépasse leur dernière embarcation gonflée, noire, je viens me réfugier à l'ombre du quai, en redoutant le retour d'une patrouille. Accosté sous les arbres d'un grand jardin qui surplombe le fleuve, je prélève un large rameau de saule qui descendait jusqu'au sol. J'ai repris l'eau sous cette longue branche qui me couvre la tête et viens finir devant mon sac. Je nage lentement, à l'abri du feuillage, dans l'espoir de passer pour un trou. Une vedette noire, gonflable, où les gendarmes sont debout, me dépasse sans me voir. Elle rebondit sur les vagues qu'elle soulève, claquant sur l'eau à chaque nouveau bond. Je me laisse porter dans son sillage, sans agiter les bras. En face, de longs bateaux blancs élégants s'alignent sous le même pavillon des yachts de Paris. De beaux bateaux très propres, accastillés de chrome et d'acajou. Sur leurs ponts-terrasses sont disposés des sièges de rotin gris, des bancs de bois lustrés, des plantes grasses aux feuilles luisantes derrière des basses et étincelants.
Des bastingages étincelants.
Merci.
Un courant soutenu me porte vers le centre de la ville, mais la Seine se divise. Deux bras de largeurs inégales s'offrent à ma décision. J'hésite. Je n'ai rien décidé depuis longtemps. À droite, le canal paraît plus étroit. Il s'engage vers un enchevêtrement de toits anciens, de tuiles plates, de clochers et de pignons classiques, au-dessus de grands arbres penchés dont les troncs et les branches sont retenus par des jambes d'acier. Au-delà, le ciel s'élargit, couleur d'azur pâle, veiné de gris bleuté et de nuances pervenches, en lambeaux vaporeux. Au centre, la pointe du confluent, verdie d'un bouquet de lierre qui descend sur le quai en larges plaques sombres. À gauche, vers le soleil, dans le prolongement d'un alignement de façades inondées de lumière, une silhouette à contre-jour, les lignes espérées d'une cathédrale gothique, la probabilité de l'île de la cité.
J'ai soif, encore, mais les bistrots parisiens me semblent inaccessibles. Je nage sous un rempart de moellons, une façade nue où descend l'ombre des arbres qui la saignent, dans une odeur tenace, aigre, un parfum d'échappement, dans le murmure entêtant des moteurs au ralenti et le cri des sirènes des voitures de police. Je laisse filer ma branche, elle flotte devant moi. Je nage à découvert pour accoster au pied des arcs réguliers du pont neuf. Un pont de pierre blanche, neuve, fraîchement taillée. Quelques marches humides et glissantes surtout conduisent jusqu'au terre-plein élargi devant les arches du pont. Je m'habille rapidement à l'ombre de la première.
Le ciel rosit déjà au-dessus des escaliers de pierre qui conduisent au sommet du quai. Aussitôt, des poteaux, des piquets, des barrières et des garde-fous, des voitures, des vélos, des camionnettes, des fils, des câbles au-dessus, des mains courantes, des piétons empressés qui marchent entre les carrosseries immobilisées dans leur vapeur d'essence. Des jupes, des pantalons, des mollets, des talons, plus haut, des sourcils, des lèvres, des oreilles, des boucles et des mèches, des volants, des regards impatients derrière des pare-brises, des épaules, des coudes, des guidons de moto, des lunettes et des casquettes, des visages dans une odeur de soufre cuit, de plomb fondu, une fumée âcre et invisible. Sur les façades, sur les murs, la pierre est taillée, écarée, la roche ici est lisse, polie, rectangulaire et grise, des tuyaux, des gouttières, l'eau est canalisée partout, grise aussi.
Et alors je me souviens jamais de son nom, Antonio de Lille, et qui est pêcheur et qui vit littéralement dans l'eau, il vit réellement dans le fleuve. Et puis je pensais à un autre ouvrage qui, alors lui, n'est pas du tout à voir avec l'eau, mais qui est un livre de François Bon qui s'appelle Paysages verts, que j'ai lu il y a très longtemps, je pense que j'étais à la fin de mes études des Beaux-Arts, et qui est un roman qui s'entête à décrire ce que François Bon voit par la vitre entre Paris et Nancy, alors qu'il mène des ateliers d'écriture à Nancy. Et il construit un récit en pénétrant le paysage.
En train, donc.
En train, ouais. Alors, je vais essayer d'amorcer la première question. J'ai choisi une œuvre d'Alan Sekula qui s'appelle « Dear Bill Gates ». Donc c'est un triptyque, il y a trois images et il y a un texte qui accompagne. Alors, je vous montre le texte. Alors, j'ai fait une traduction qui est un peu approximative. Donc il dit qu'il est passé proche de la maison, il est à la nage, il essaye de voir la maison de Bill Gates et il aurait bien aimé jeter un coup d'œil sur The Lost of the Grand Banks, qui est une œuvre de Winslow Homer que en 99 Bill Gates vient d'acheter pour la somme de 30 millions de dollars. Et il fait une petite description de l'œuvre, où en fait ce sont des pêcheurs qui sont dans, on va voir le tableau après, qui sont dans un moment de tension, parce qu'ils sont dans une espèce de tempête. Et il fait une analogie entre les filets des pêcheurs et puis le net, qui est Internet, qui est le début du réseau. Et il essaye de... Alors ça va être ma question, je vais vous montrer peut-être le tableau de Winslow Homer. Et donc qui est finalement des pêcheurs héroïques. Donc en lisant le livre, je me suis demandé si c'était pas un récit d'aventure, si c'était pas un récit d'aventure à contre-courant, c'est-à-dire une espèce de regard ironique sur la France et le nez dans l'eau, avec un point de vue très bas, quasiment au niveau zéro, même s'il s'élève au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si ma question était claire.
Si, parce qu'elle pose bien. elle pose bien, mais je dirais même plusieurs questions, en fait, que ce livre pose. Moi, j'aimerais commencer par une anecdote un peu véridique. Parce qu'il se trouve que quelques mois ou très bien après la parution du livre, j'ai été contacté par le rédacteur en chef, je crois, d'une revue géographique et qui commence à me dire « Donc, vous avez traversé la France à la nage ?» Et là, je lui réponds immédiatement « Pas vraiment !» J'ai écrit la traversée de la France à la nage, je me suis donné les moyens d'écrire cela, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Et aussitôt, je me suis rendu compte qu'il était déçu. Il aurait tellement aimé avoir en face de lui quelqu'un qui avait vraiment, à la puissance de ses bras, de ses cuisses et de son corps, affronté la France à la nage. Et donc, cette petite déception m'a rappelé que j'avais un peu joué avec le feu. En fait, tout ça, c'est quand même de ma faute, profondément. En fait, parce que en louvoyant, c'est le cas de le dire, en ondoyant entre le vrai et le faux, je me plaçais sur un terrain où il y avait une ambiguïté fondamentale. D'autant plus que j'avais pris ce qui pour moi était une convention littéraire possible parmi d'autres, l'expression à la première personne qui redouble l'effet de vérité. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que qu'on pourrait appeler la dialectique du vrai et du faux n'aime pas être mise en cause, je dirais. Mais pour moi, au-delà de cette de ce rapport du vrai et du faux, c'est plutôt la question du sérieux. Le vrai étant profondément sérieux, et de ce qu'on pourrait appeler la fantaisie, l'amusant, la fiction, je dirais. Mais c'était déjà trop tard, puisque j'avais pris comme principe de d'écrire ce qui s'apparentait, il s'apparente encore, à un récit de voyage. Donc avec quelqu'un qui va effectivement traverser des paysages, qui va être, fidèle, totalement. C'est-à-dire qu'il, dans ce livre, on n'invente pas un caillou, on n'invente pas, là j'ai entendu quelques lignes de Paris. C'est vrai que c'était maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, parfois il y a des choses qui changent en ville. Mais par exemple, quand je vous ai entendu, quand on traverse la France à la nage, ou quand on imagine par exemple suivre celui qui traverserait la France à la nage, c'est plutôt mon cas, et qu'on arrive dans une ville comme Paris, le fait que la pierre soit taillée, soit lisse, soit... c'est une véritable surprise parce que à travers la France, les rives de pierre que l'on croise sont des rives de pierre brute, de pierre sauvage. Et donc le rapport ici même entre le sauvage et le brut, et de l'autre côté le policé, l'urbain, l'humain donc, s'accentue. Donc en fait, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'un nageur caché sous une branche au ras d'un canot de la police fluviale parisienne, c'est un peu moins vrai. Je le conçois. Mais quand le cadre est un cadre de vérité, on peut se permettre d'énoncer des choses qui dépassent ou qui peut-être creusent autrement la réalité du monde. Et donc ce principe fondamental appliqué ici, c'est celui d'une fidélité absolue à la, réalité de ce qui apparaît, et pas forcément de ce qui est. Parce que mais c'est vrai à la nage, mais c'est vrai dans tous les moyens de transport. Vous parliez tout à l'heure du voyage en train de François Bon entre Paris et Nancy. S'il s'était assis sur la gauche du wagon, le paysage qu'il découvrait par la fenêtre n'était forcément pas le même que s'il avait été côté droit. Et que donc le simple fait de tourner la tête... nous fait échapper, malgré nous, à notre volonté de fidélité. Donc, c'est la fidélité à une apparence. Voilà. Donc, ça permet non pas de dire le monde dans sa réduction quasiment phénoménologique, mais plutôt, c'est plutôt dire l'apparition du monde. Et cette apparition, elle est ici contrariée par un fait que vous avez déjà évoqué, qu'on voit d'ailleurs même encore sur cette image, c'est que tout le monde sait que l'eau a une tendance naturelle, physique et spontanée à aller vers le bas. Donc, les rivières et les cours d'eau sont toujours le point le plus bas du paysage. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on appelle le point de vue pittoresque. Si vous voulez faire de jolies photos, je ne vous conseille pas d'aller poser votre appareil dans l'eau, mais plutôt de monter sur la petite colline pour avoir une belle vue. Donc celui qui décide, par son moyen de locomotion, de se placer dans l'eau, déjà, physiquement, son œil va être à peine plus haut que la surface de l'eau, mais encore plus, l'eau qui l'entoure va déjà être au plus bas du paysage. C'est-à-dire qu'elle va être au creux de la vallée. On ne voit jamais une rivière qui coule vers le haut d'une vallée. Donc, l'angle, je dirais, non pas de prise de vue, mais l'angle du point de vue est un angle, c'est une contre-plongée, en fait. C'est pas contre-courant, mais c'est plutôt le principe de contre-plongée. C'est voir le monde d'en bas, mais sans descendre en dessous de sa surface. Et cette surface qui, en plus, a une tendance à être réfléchissante. Ne serait-ce que, par exemple, la couleur de l'eau, des fleuves ou de la mer, c'est, en fait, ce n'est qu'un reflet de la couleur du ciel ou des arbres qui l'entourent. Voilà. Donc on est à la fois dans un monde d'apparence, et en tant qu'apparition, mais aussi un monde de reflets. Donc tout ça fait que on semble s'éloigner profondément de ce qui était le point de départ, c'est-à-dire une fidélité à la vérité du monde. Donc le choix premier, je veux dire presque programmatique, de dire il est possible de faire un voyage à travers un pays comme la France à la nage, implique, on vient de le voir, déjà plusieurs choix esthétiques et formels qui vont faire qu'on va être confronté à un récit de voyage, mais où, au fond, on ne voit pas grand-chose. Parce que on est toujours en bas, on est trop bas. Dès qu'il y a un quai, dès qu'il y a des arbres, on ne voit plus rien. Je veux dire, moi, j'ai un souvenir personnel là. C'est pas du tout le nageur de la traversée. J'avais fait quelques kilomètres de brevière un peu, comment dire, récréative, sur une sorte de péniche qui remontait de Bordeaux à Cadillac. Mais dès qu'on quitte, le pont de pierre, c'est ça, hein, le pont de pierre, et qu'on s'avance un peu, le monde disparaît. On a deux rangs verts, et pendant 20 km, on voit deux rangs verts et une eau brune. Et on se dit, c'est joli. C'est joli, mais c'est une réalité particulière. Et qui, en plus, conduit à une sorte de... Comment dire, d'égarement, parce qu'en fait on est désorienté, on ne sait plus où on est. On voit des berges sans cesse partout, mais on ne sait jamais, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on a oublié, c'est que nous sommes tellement habitués à l'entrée du moindre bourg, du village, de la ville, de voir des panneaux qui nous disent voilà, Bordeaux, Tarbes, Luchon, mais quand vous, si vous arrivez à Tarbes par l'Adour à la nage, j'imagine qu'il n'y a pas de panneau à l'entrée de Tarbes pour dire Tarbes, c'est-à-dire que il n'y a aucun moyen de savoir où on est, sinon il faut sortir. Alors parfois, il y a des moments, ça arrive, où les autoroutes peuvent frôler le fleuve, et comme leurs panneaux sont gigantesques, on peut voir écrit Toulouse, Roanne, Moulins, Paris. Paris, je pense, c'est le mot qui apparaît le plus sur tous les panneaux de signalisation de France. Ça, c'est une... voilà. Bref. Donc, je ne voudrais pas perdre de vue ce que vous m'avez...
L'aventure.
Voilà. C'est que c'est, il s'agit simultanément, je dirais, d'un roman d'aventure. Pourquoi ? Tout simplement parce que quiconque voudrait essayer, de, non pas de reproduire, mais de produire cette tentative, se trouverait confronté à une série de, je dirais d'obstacles, de résistances du monde qui peuvent s'avérer très dangereuses, voire létales. Les plus simples, les plus évidentes sont bien évidemment les courants. Parce qu'il y a certains endroits des cours d'eau de France où le courant est d'une violence extrême. Surtout quand on arrive un peu dans les vallées de montagne où l'eau coule vite et fort et qu'elle peut donc projeter les nageurs vers des tourbillons qui le retiennent. Enfin, vous imaginez très, très bien tout ce qu'un nageur risque dans une eau vive, surtout seul et je dirais à main nue, sans appareillage. Ensuite, il y a bien évidemment des obstacles qui ne sont pas naturels, c'est beaucoup les constructions humaines, en particulier les barrages hydroélectriques, forcément, donc qui sont des sortes de murs. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui arrive à la nage en remontant le courant d'une rivière qui voit devant lui un mur qui peut faire plus de 100 mètres de haut, un mur de béton lisse. Comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'on passe? Voilà, il y a un problème de passage puisqu'on doit continuer. Donc comment contourner? Comment après? Il y a aussi des chutes. Donc des chutes, là, il y avait une petite à l'entrée de Paris, je crois que c'est du côté de Choisy. Voilà, donc il y a des endroits. Alors, dans les parties navigables, il y a toujours la solution des écluses, parce que les péniches ne franchissent pas les chutes. Donc souvent, quand il y a ce qu'on appelle un saut ou un seuil, il y a sur le côté le bâtiment d'une écluse qui permet de... Assez. Mais une chute, si elle est imprévue ou si elle est affrontée de face, c'est un obstacle physique violent. Après, il y a encore d'autres types d'obstacles, comme par exemple au confluent de l'Allier et de la Loire. Il y a toute une partie, voilà, ça s'appelle le bec d'ailleurs, le bec d'Allier. Qui est constitué en fait de sable mouvant. C'est-à-dire que si le nageur lassé de la brasse dit je m'arrête un peu sur le bord, il s'enfonce. Et là donc il y a une autre page, le nageur s'enfonce effectivement dans des sables mouvants. Il est sauvé par son sac qui a la bonne idée de venir lui permettre de prendre appui. Parce que le sac, par sa densité et sa surface, s'enfonce moins que le corps qui... voilà. Mais il y a encore d'autres résistances, et en particulier la résistance thermique. C'est que tout le monde aime se baigner quand il fait chaud. Voilà, sur la plage, on va tremper un peu, on nage un peu, et puis on revient, et puis on sèche au soleil. Alors que si on a de la route à faire, et il faut bien passer des heures, de longues heures, dans une eau qui peut être froide, fraîche, voire très froide. Et que donc, il y a des risques, je dirais, d'hypothermie, et des risques... Enfin... Il y a encore un autre type de risque, c'est plutôt sur les fleuves un peu importants, les bâtiments des centrales nucléaires, qui sont assez particuliers parce qu'ils ont la double particularité d'être protégés, donc un peu inaccessibles. On redoute des terroristes, ce qui est une bonne chose. Et voilà, donc il y a des patrouilles, voilà, donc c'est une sorte de, un autre type de danger et qui se cumule, c'est plutôt après en aval de la centrale, par des afflux d'eau chaude, très chaude, enfin beaucoup plus chaude qu'elle ne l'était quelques minutes auparavant, avant que la centrale ne déverse sa, son trop-plein de chaleur, un endroit d'ailleurs particulièrement poissonneux. Et les poissons adorent ça. Donc on dit peut-être que c'est pas si dangereux, mais on imagine que on peut être soumis à un peu de radioactivité au, au passage. Donc c'est possible, voilà. Mais on n'en sait rien, voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, même si on peut dire oui, je suis en train de nager au pied de la centrale, je peux pas affirmer que je suis que là. J'ai pas un compteur CGR à la main, voilà. Donc, on n'en sait rien, mais c'est possible. Et enfin, le pire, les pires, c'est les agressions directes. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a une espèce de poisson qui prolifère depuis maintenant pas mal d'années en France, qui est assez nouveau. C'est pas si ça date du XXe siècle. C'est le silure. Alors, le silure est un poisson carnivore, bien évidemment, mais dont la particularité, c'est qu'il peut atteindre des tailles considérables. On peut facilement trouver des silures de 80 kg, plus de 2 mètres de long, une bouche conséquente, des dents acérées, et inévitablement, mon nageur se fait agresser par un silure. En plus, c'était un silure de banlieue. Les pires. Voilà, parce que il avait fait une petite bêtise. Comme il avait traversé la Brie, il avait eu le cru malin d'acheter un fromage de Brie entier. Et alors, très vite, il a remarqué que son sac, son baluchon, son compagnon avait pris une odeur assez forte. Et on peut imaginer que le silure s'attaquait plutôt au fromage qu'à l'homme. Mais bon.
Peut-être on peut dire que le sac devient un personnage au fur et à mesure du récit.
Oui, je vais y venir. Ah, bien, okay. Je vais y venir. Et enfin, pire que le silure, parce que plus doté d'appareils plus sophistiqués, il reste quand même l'homme. Voilà. C'est-à-dire les pêcheurs. Parce que le pêcheur a la ligne, il lance sa ligne, mais il lance sa ligne vers un poisson qu'il n'a pas vu. Il espère qu'il va tomber à l'endroit du poisson dont il rêve. Mais s'il tombe sur vous, vous vous retrouvez avec un crochet de fer accroché à la mâchoire et qui vous tire avec un filet épais. Voilà, vous êtes confronté. Là, c'est pas du roman d'aventure. Voilà. Mais le propre du roman d'aventure, c'est un peu d'ailleurs ce point commun avec le récit de voyage, c'est que de la même manière que dans le récit de voyage, le voyageur va toujours au bout de son voyage, jamais il s'arrête avant la fin, et dans un bon roman d'aventure, le héros tient jusqu'au bout. Parce que si vous imaginez un roman d'aventure dont le héros meurt au bout de 30 pages, ça risque d'être long ensuite.
Voilà. Peut-être
Oui.
Du coup, ça a été raconté d'abord le. Ça, c'est le trajet.
Oui.
J'ai reconstitué le trajet. Oui. Les parties grises claires, en fait, ça représente les bassins versants de la Garonne, la Loire et la Seine. Mmh. Donc, il descend la Garonne, il remonte le Lot, il se méprend, il prend la Truyère. Mmh. Arrivé dans les sources de la Truyère, il ne peut plus avancer, donc il va rejoindre le Chapeau-Roux, il descend de l'Allier, la Loire, il prend un petit bout de canal du Loing, et puis il va remonter le Loing jusqu'à la Seine.
Il prend, le canal de Briard.
Briard, d'accord. Voilà.
Qui est le plus ancien des canaux, des grands canaux de France, qui date du 16e siècle, je crois, 17e.
Donc ça, c'est finalement, c'est la trame du livre. C'est-à-dire...
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, et puis l'autre... en fait, il y a comme deux trames superposées. Il y a une seconde trame. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette œuvre de Francis Alice, qui, en gros, dit que des fois, on fait des choses qui ne mènent à rien. Et c'est pour ça que j'ai coupé, parce que je me disais de... effectivement, le héros essaye de mener son combat. Et finalement, il se transforme au fur et à mesure de l'action. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Francis Alice, le glaçon fond, donc son parcours dans Mexico se transforme. Et puis, en tout cas, dans l'attitude. Et puis, j'ai aussi ramené un film de Frank Perry qui a été aussi co-réalisé par Sidney Pollack, qui s'appelle The Swimmer, qui est Burt Lancaster qui rentre chez lui de piscine en piscine, il plonge de piscine en piscine, et il remonte à la fois le parcours, mais aussi le temps, puisqu'il arrive à sa propre ruine. En fait, dans le roman, il y a quelque chose qui se termine par une sorte de... Enfin, en queue de poisson, je ne sais pas si... Je laisse.
Oui. Une fin. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu le film, ce que je trouve merveilleux dans ce film, c'est que le seul costume de Burt dans ce film, c'est son maillot de bain. Donc il traverse tout le film en maillot de bain, ce qui apporte un charme au film. Oui, donc en fait, vous avez posé plusieurs choses. La première, c'est vrai, c'était la question qu'on se pose tout de suite. Traverser la France à la nage, oui, pourquoi pas, mais par où? Par où? Parce que je veux dire, voilà. Alors, voilà, si on peut. Voilà, donc en fait, la France, c'est plus ou moins. Alors, ça ne va pas faire plaisir aux gens d'ici, mais. Parce que l'Adour, un peu comme le Var, sont un peu des cas particuliers, mais il y a quatre grands bassins, il y a hydrographique, il y a la Garonne, la Loire, la Seine et le Rhône. Bon. Et avec ça, après, il y a les affluents du Rhin, bon, et l'Adour qui est autonome, c'est vrai, et le Var aussi. Mais... je disais tout à l'heure que la particularité de l'eau et donc des rivières, c'était toujours de tendre vers le point le plus bas. Mais l'autre vérité des bassins hydrographiques, c'est qu'ils sont tous centrifuges. C'est-à-dire qu'ils se dirigent tous vers la mer. Voilà. La Garonne se termine dans la mer, le Rhône aussi, ainsi de suite. Donc, en fait, ces mouvements centrifuges n'autorisent pas véritablement à avoir un chemin naturel pour traverser la France. D'autant plus que la France, la géographie de la France est constituée de telle manière que la France, c'est un peu le massif central... comme son nom l'indique, avec la France autour. En gros, le massif central est au centre de la France. Donc si on veut traverser la France, on est plus ou moins obligé de passer par ou de frôler le massif central, qui, s'il n'est pas une montagne très jeune et très escarpée, pose le problème quand même de gravir des montagnes à la nage. Ce qui n'est pas évident, parce que on a parlé un petit peu du courant tout à l'heure, mais là on voit que, je dirais par à la fois par toujours ce principe de fidélité à la réalité du monde, l'essentiel du voyage se fait dans le sens du courant. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de nageurs émérites ce soir, mais quiconque nage en rivière ou même pour ceux qui font du bateau, c'est un peu la même chose. On sait que si on est dans le sens du courant, on avance facilement et sans effort, alors qu'à l'inverse du courant, il faut beaucoup d'efforts pour avancer très peu. D'ailleurs, l'écriture du livre en témoigne, c'est que les étapes sont beaucoup plus courtes dans les phases d'ascension que dans les phases de... Voilà. Et en plus, en période de crue, voilà, on se laisse entraîner même au-delà des berges. Mais nous y reviendrons. Donc, se poser le problème de... Il y avait un double problème. C'est que autant la Garonne et le Lot et la Truyère voilà, ont des confluents qui permettent de passer de l'un à l'autre de manière tout à fait naturelle, de la même manière qu'ensuite le Chapeau Roux est un affluent de l'Allier qui lui-même se jette dans la Loire, le canal de Briard est de plein pied avec la Loire, et le Loing, la Seine, l'Oise et l'Aisne. Vous n'avez pas mis l'Aisne en rouge, voilà. Mais c'est pas grave. Après, il y a un seul endroit où il y a une discontinuité. C'est entre les sources de la Truyère et les sources du Chapeau Roux. Mais par chance, ces sources... se trouvent être très proches l'une de l'autre. C'est la même montagne qui, sur un versant, donne la Truyère et sur l'autre donne le Chapeau Roux. Donc là, il y a une petite subtilité. C'est qu'à un moment, le nageur fait quelques pas pour avancer. Mais par chance, il pleut. Et la terre est très humide, donc on peut dire qu'il nage presque. Voilà. Mais là où, par exemple, la Truyère a un rôle capital dans la possibilité de l'accomplissement, c'est que la Truyère est constituée d'un ensemble de barrages relativement rapprochés et très important, qui forme en fait une sorte d'escalier. Ce qui fait que quand on remonte la Truyère, non seulement on monte, on va contre le courant, mais on le va dans des biefs qui sont plutôt plats, qui sont des lacs en fait, donc avec peu de courant et peu de pente. Voilà. Mais il faut affronter quelques barrage un peu vertigineux. Mais cette idée d'un escalier qui permet de gravir la montagne était trop belle pour que je la laisse passer.
Parce que on peut dire en remontant de l'Ob, vous auriez pu y arriver aussi.
Oui, mais c'est ça. Oui, mais il n'y avait pas cet intervalle très court entre les sources du Lot et voilà. Et c'est ça qui était. Et la vallée du Chapeau Roux est très jolie. Donc, en fait, ça, c'est. En fait, voilà, c'est une sorte de. C'est une carte, voilà. C'est une carte. C'est donc on sait qu'on voilà, il faut passer par là. Et après, bien évidemment, ce n'est pas seulement un récit de voyage, c'est un roman d'aventure. Donc, une des particularités du roman, c'est que le personnage se transforme. Bon, on dit, voilà, on prend un personnage, on lui fait subir un roman, et à la fin, il n'est plus tout à fait identique. Et nous, non plus. Il aura appris, ou nous aurons appris quelque chose du monde, en fait, une nouvelle fois. Donc là, mais c'est vrai que sur le plan de l'action psychologique, le livre est assez faible. Parce que, pour un point tout simple, c'est que même dans les zones périphériques des villes, les bords des rivières sont toujours un petit peu inhospitaliers. C'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver les entrepôts un peu sales, les usines polluantes, les camps pour les gens du voyage, tout ça. C'est là où on met un peu ce qu'on ne veut pas voir trop, quoi, parce que c'est un peu caché. Voilà. Et en plus, dès qu'on quitte vraiment les zones urbaines, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus personne presque en fait. C'est-à-dire que entre deux rangs d'arbres, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on entend quelques pêcheurs, mais pas tant que ça en fait. Et surtout des animaux, beaucoup. Voilà. Et bien évidemment, des animaux qui soient habitent vraiment au bord de l'eau, voire dans l'eau. Mais aussi des animaux qui viennent à l'eau pour boire. Bon, moi, j'ai rencontré, c'était très joli. C'était à l'entrée de Toulouse, une compagnie, c'est ça, pour les sangliers. C'est ça, je crois qu'on dit une compagnie.
Une A.
Oui, je pensais que c'était. Non, mais je pensais que c'était plus pour les loups, ça. Enfin, bref. Une harde, donc. La mère et les petits-enfants qui venaient boire. C'était tout à fait joli. Et donc, puisque cette épreuve, puisque ça reste quand même une épreuve, et cette aventure doit transformer le personnage, la seule façon qu'il a, de manière un peu presque darwinienne, je dirais, c'est de s'adapter au milieu dans lequel il est plongé. Voilà. Donc là, ça fait tout de suite évoquer plein de choses, parce que le rapport à l'eau semble avoir une sorte de rapport à la nudité, là, on voyait le corps de Burt. Voilà, il n'est pas nu parce que c'est un film américain, mais il aurait pu être nu. Voilà, Et donc, il a une nudité. On avait déjà le problème d'un point de vue très particulier visuellement, mais c'est aussi un point de vue physique. Que d'être dans l'eau, de séjourner dans l'eau, et d'être parce que il a une nudité semble être liée à l'eau. Par exemple, est-ce que vous connaissez des gens qui mettent un imperméable pour prendre une douche ? Non. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il pleut, dès qu'on voit tomber de l'eau, on met un imperméable. Et quand on va volontairement se placer sous l'eau, on enlève son imperméable, en fait. Donc, en fait, il y a comme une tension vers la possibilité, non seulement d'être nu, mais s'adapter presque physiologiquement au milieu dans lequel on a choisi d'évoluer. Donc... Et donc, alors, des animaux et des poissons, quoi, voilà. Donc, mais donc, tout le monde sait que, bien évidemment, aucun animal ne se rase, se coupe les cheveux, les belettes ne s'épilent pas les cuisses, hein, ni les jambes, voilà. Et le poisson, même s'il porte des barbes ou des barbillons, il ne se rase pas non plus. Ils sont dans un rapport au milieu qui est physique. Donc j'ai essayé, ce qui n'était pas simple, de faire en fait que, d'une certaine manière, parce qu'il ne s'agit pas là d'une transformation zoomorphique, mais le personnage tente à devenir quelque chose comme un homme poisson. Voilà. Jusqu'au point de subir le même sort qu'eux, c'est-à-dire d'être pêché, avec toute la douleur que cela suppose. Pour ceux qui n'auront pas le temps de lire le livre, je vous rassure, il finit par arracher l'hameçon de sa bouche. dans une flaque de sang. Et même, je suis allé carrément plus loin, parce qu'il y a une petite séquence, mais je dirais au cas où des âmes sensibles seraient parmi nous, qui est quasiment, ce que, je ne sais pas comment appeler ça, mais zoophilique. Mais passons. Parce que le rapport pur d'un corps avec un milieu induit forcément une sorte de mutation. À tel point que vous évoquiez la fin. La fin, ça se termine dans une par une décrue, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que il y a une forte crue, une très forte crue de l'Aisne qui fait que la rivière n'a plus de berge. C'est-à-dire qu'elle n'a plus sa raison d'être, qui est les rivières en France sont des sortes de grands caniveaux qui évacuent l'eau de pluie vers la mer, en gros, si on veut aller vite. Et la neige éternelle quand elle fond. Et on emmène ça vers la mer et ça revient par des nuages et tout va bien. Mais si le fleuve... Parce que dans cette région de Picardie, de l'Aisne, c'est une plaine. Donc une crue, ça prend vite des proportions telles que le paysage devient aqueux, humide, devient de l'eau. Et le second phénomène, c'est qu'autant les crues sont rapides, les décrues aussi. Et là, subitement, le pauvre nageur... qui était en train de nager dans une rivière, se retrouve couché dans un champ de boue, dans la vase, près de Soissons. Et c'est la fin. Voilà, pour la fin. Oui, alors après... Moi, je peux passer à autre chose.
J'allais dire quand je lis un extrait, je sais pas, c'est temps peut-être aux gens de le lire.
Ah oui, très bien, oui. Oh, oui, c'est bien.
Ça dit,
oui.
On se regarde.
Alors, c'est quoi ? Oui, c'est parfait parce que ça pourrait être partout.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que le livre fait 700 pages. Et pendant 700 pages, on a de la description du bord de l'eau. Et qui crée une espèce de motif. Et en même temps, sur 700 pages, c'est jamais répétitif. Ça, c'est assez incroyable dans la... Il y a plus qu'un tour de force, quoi, d'arriver à que ça soit haletant. Enfin, moi, en le lisant, au bout d'un moment, j'avais envie de retourner avec le nageur me baigner. C'est-à-dire, j'étais vraiment emporté. Voilà. Et il y a quelque chose vraiment du motif, de l'ordre du motif qui naît. Et puis, en même temps, du coup, j'ai mis Manet qui peint, Claude Monet qui peint
dans l'eau.
Dans son atelier, dans l'eau, et qui peint sur le motif. C'est-à-dire. Et donc je me disais, il y a motif et sur le motif.
Oui.
Comme question dans le livre, quoi.
Oui.
Et qui peut peut-être aussi rejoindre des questions d'étudiants d'art ou de.
Ah oui, tout à fait.
De peintre, en tout cas.
Tout à fait. Mais disons que ça a été autant une volonté qu'une obligation. Il était évident que on ne peut pas écrire quelque chose qui s'apparente à un récit de voyage sans montrer ce qu'on voit. Voilà. Donc en fait, la question était de travailler sur ou motif, comme disent les peintres. En fait, parce que, voilà. Donc, parce que, bien évidemment, tout le monde connaît la leçon historique de Monet, et pas Manet, avec la cathédrale de Rouen, ou Cézanne, avec la montagne Sainte-Victoire. C'est-à-dire que... il travaillait sur le motif. Alors là, c'était très particulier parce que il avait trouvé une chambre en face de la cathédrale et il peignait par devant la fenêtre. Et il ne voyait qu'une partie, donc il ne pouvait peindre que ça. Et je crois qu'il en a fait 30 ou je ne sais pas combien. Voilà. Mais il a consacré que 2 ans. Alors que. C'est dommage, si on a coupé mon. Les images ne changent rien. César a fait ça pendant 20 ans sur la même montagne. Il a fait 80 tableaux, c'est quand même beaucoup. Mais lui changeait de point de vue, donc il faisait le tour. Mais la question est la même, c'est de dire que la force du travail sur le motif, c'est qu'on y découvre que rien n'est fixe. C'est-à-dire que si je vais prendre une photo de ce sac plastique maintenant, donc je travaille sur le motif là, et que je reviens demain refaire le même sac plastique sous le même axe, je suis sûr que l'image produite sera complètement différente. Voilà. Donc le travail sur le motif, c'est un travail sur le temps, en fait. Sur l'instant, sur l'éphémère, sur la durée au moment où elle semble disparaître pour faire revenir la même chose sous une autre forme. Et donc, la volonté de travailler sur le motif, c'est essayer de faire que la capacité de restituer une image résiste au fait que cette image n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'elle est instantanée. Donc, en fait, ça implique... Je pense, pour celui qui décide de travailler sur le motif, à la fois une sorte de rapidité, je ne sais pas combien de temps il a mis pour peindre ce tableau, et aussi une immense patience. Donc comment être à la fois patient et rapide? C'est une sorte de contradiction, en fait. Surtout que... puisqu'on évoque la peinture, on peut parler du cinéma aussi, la natation, enfin, le spectacle du monde vu à travers le prisme de la natation ressemble à un très lent travelling. C'est un travelling très lent sur un décor qui est le même pendant des kilomètres, en fait. Donc il faut que la richesse de ce que l'on découvre surmonte la lenteur avec laquelle on le découvre. Et là, par chance, je dirais que le fait d'écrire est surtout plus facile que d'être cinéaste ou photographe. Parce que le peintre, lui, il se permet tout. Alors que voilà, le photographe qui travaille sur le motif, à part bidouiller un peu sa méthode de prise de vue, il est obligé de témoigner de ce qui est devant son appareil. Le peintre, lui, et celui qui écrit encore plus, parce que il peut faire apparaître le sentiment de durée, en fait. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de quand même toujours de restituer un monde que l'on croyait connaître et que l'on découvre, voilà, un monde inconnu. C'est-à-dire que des journées entières à ne voir que des branches qui pendent dans l'eau, ça oblige à voir ces branches autrement, à essayer de comprendre, voilà, sur comment elles sont, quelle est un peu la matière du monde et non pas juste l'apparence, je dirais même presque le grain.
Il y a même toute une partie sur l'écume et une interrogation sur l'écume et la perception de l'écume, bien sûr, qui est hyper, hyper belle, on dit.
Et même l'association thermique là, vers la fin, parce que le livre se termine plutôt l'été, la chaleur qui gagne, voilà, c'est là. Mais c'est comment rendre c'est un peu comme quand on revient à la photographie, rendre le grain de la peau, parce qu'aujourd'hui on vit dans une période où on voit beaucoup des images de visages lissés. C'est très limite, je crois qu'on se rend même plus compte, quoi, parce que entre le cinéma qui a inventé le maquillage en fait juste pour éviter les défauts et la télé qui a pris le relais pour pas que ça brille, et maintenant même sur des photographies, tous les corps sont lissés. Comme si, alors ben, tout le monde connaît Photoshop et les moyens qu'on a de voilà, il y a même des trucs qui sont presque de l'ordre de l'intelligence artificielle, presque, qui arrive à enlever le grain, voilà, les défauts de la peau. Mais moi je dis qu'on en perd son grain, voilà. Mais là, le problème avec le monde, c'est que moi je voulais restituer son grain, c'est-à-dire presque ses défauts, voilà. Voilà, c'est ça me paraissait très important de... Voilà. De rendre le compte du grain, voilà.
Du coup, ma dernière question. J'ai fait un tableau de Turner qui s'appelle « Une tempête de neige », qui est considéré comme un des premiers tableaux d'abstraction. Et lui dit « Non, 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 moi j'étais accroché au mât d'un bateau, j'ai vécu la tempête ». Je suis retourné dans l'atelier de peintre. Et finalement, ce que ça raconte, c'est que pour transcrire une expérience, il y a besoin d'un temps qui est un temps séparé de celui de l'observation, qui est un travail peut-être d'édition dans le cas d'un livre, ou un travail de montage au cinéma, ou même en photographie, qui serait un temps séparé. Et du coup, ça me pose la question de la méthode, c'est-à-dire comment vous avez fait. Peut-être ce que je peux dire, c'est que le récit se passe plutôt à l'automne au départ. Ensuite, il y a une histoire d'amour qui est très vraie, une sorte d'énorme ellipse. Et puis, vous repartez le personnage, pardon, repart au printemps pour finir plutôt vers la fin de l'été. Il y a beaucoup de séquences d'hôtel, puisque il y a le personnage sort beaucoup de l'eau, finalement. Dans son sac, il y a des vêtements propres, mais toujours impeccables, finalement. Il y a beaucoup de descriptions au restaurant. C'était un peu ça ma question au départ sur la France. Quel type de France ça raconte, finalement. Mais peut-être c'est plus le moment, mais... Donc on sent qu'il y a une trame qui est une trame, on revient à cette histoire de la véracité au départ, mais peut-être qu'il y a une trame qui explique, voilà, un peu la méthode, et je me dis, c'est peut-être intéressant de voir ce que nous, en fait, nous les artistes, on, en tout cas nous les profs, je crois qu'on aime bien savoir comment les étudiants produisent des formes, en fait, quels sont les choix qu'ils opèrent, et là, du coup, comment vous avez fait.
Oui, d'abord, oui, c'est vrai que la première chose, c'est que toujours, parce que on est quand même dans un cadre littéraire, donc il faut, même si on dépasse beaucoup de conventions, respecter. Donc, le point de départ, c'est que l'homme qui traverse la France à la nage, c'est pas un surhomme. Donc, quelqu'un qui passe plusieurs heures à nager tous les jours, il est très heureux le soir d'aller manger. parce qu'il y a un problème calorique, tout simplement. La dépense calorique fait qu'il faut se nourrir convenablement. Et dormir dans un lit, c'est pas... Alors, il est parfois, quand il ne trouve rien, il dort là où il peut. Mais chaque fois qu'il voit qu'il y a une petite auberge, il va, voilà, il va passer la nuit au sec.
Ou il rentre chez lui en RER.
Voilà. Alors là, ça, c'est très particulier. Alors, je veux bien faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que toujours dans un souci de, je dirais, de prosaïque, voilà, je me suis dit, bon, il traverse la France, il a un petit sac qui est un peu un sac magique, parce qu'il a toujours tout ce qu'il faut dedans, mais il va quand même beaucoup manger, dormir, mais comment il paye? Donc il a une sorte de petit objet magique, c'est une sorte de petite carte en plastique avec un code qui lui permet de payer. Voilà. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est très importante, parce que sans elle, il ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait. Alors, il fallait qu'il emmène des liasses de billets, mais dans la poche, ils auraient été mouillés, enfin bref, il aurait pu les perdre. Mais il se trouve que comme il traverse la France et qu'il passe par Paris, sont décidés de passer par Paris, mais parce qu'on a vu sur la carte que les chemins d'eau l'y conduisent, et il se trouve qu'à Paris, il a un petit pied-à-terre au bord de la Seine. Donc il va passer une nuit chez lui. Et il repart, parce que la règle étant de ne pas passer plus de nuit au même endroit, puisqu'il est en plein voyage. Il repart, et là... il remonte, alors comme vous le savez sans doute, Paris est situé dans les boucles de la Seine. Donc la particularité des boucles de la Seine, c'est que parfois on fait 20 km pour se trouver quasiment au même endroit, quoi. Ce qui, à la nage, peut être épuisant. Donc il dévale les boucles de la Seine, et là, il découvre, au bout de plusieurs jours, plusieurs nuits, qu'il a oublié sa carte bleue chez lui. Et donc là, en une demi-heure, il prend le RER et il est chez lui. Donc c'est un autre rapport au temps. C'est qu'autant, il a mis trois jours pour aller d'un point A à un point B. En quasiment une demi-heure, il revient du point B au point A. C'est une façon de souligner les différences de vélocité qu'on peut mettre en œuvre. Cette parenthèse refermée, la méthode, les méthodes, parce que le vrai principe, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour partir vers un inconnu dont on sait qu'il va être pas toujours très spectaculaire, et se donner les moyens de le rendre attrayant et prenant. Donc on a vu que le travail sur le motif était une condition fondamentale, mais l'autre condition, c'était la capacité d'être réceptif. C'est-à-dire que le moindre micro-événement doit être perçu et doit être retranscrit. Alors, je repense à ça, je ne sais plus très bien où c'est, mais c'est, je crois que c'est du côté d'Aiguillon. Il sort de l'eau 5 minutes pour faire une pause, il parle un peu avec un pêcheur, et là, subitement, le pêcheur se met à gesticuler dans tous les sens, une guêpe est entrée dans sa chemise, et il part et il court, je ne me rappelle plus s'il se jette à l'eau ou presque. Et bien évidemment, je n'ai pas inventé ça. C'est quelque chose que j'ai vu qui s'est produit sous mes yeux, mais il aurait suffi que je ne sois pas attentif, je dis, tiens, voilà, je vois quelqu'un qui fait des gestes étranges avant de comprendre, voilà. Et donc il y a sans arrêt, en fait, cette capacité d'attention. Donc comment être attentif sans arrêt, tout le temps, et dans un modèle qui, sur lequel, qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'aurais pu, bien évidemment, je suis allé lire les quelques auteurs qui paraissaient, ils sont tous très très différents. Marco Polo ne dit rien. Je ne sais pas comment il fait pour dire aussi peu. Il dit voilà, j'ai fait 5 jours à cheval. Ah bon, très bien. Ou d'autres, par exemple Stevenson. Il y a un ouvrage qui est assez marrant parce que j'avais beaucoup aimé le titre. Enfin, la traduction du titre, c'était En canoë sur les rivières du Nord. C'est un livre qui est assez peu connu de lui. Oui, donc en fait, il est pareil. Mais là, ils sont deux et ils remontent en canoë, bah pareil, vers la Belgique. Mais alors, lui, c'est carrément le contraire. Il fait un quart de page sur la rivière et après il fait 40 pages sur la soirée à l'auberge. Donc ça marche pas non plus. Voilà. Donc voilà, il y a pas de modèle tout fait en fait. Tout fait. Même s'il y a des images, comme par exemple celle qu'on a vue au tout début, ça c'est chez Jules Verne, oui. Alors, il se trouve que pour une coïncidence, alors qu'il y a quelques jours, je finissais les tribulations d'un Chinois en Chine, que je n'avais jamais lu, que je vous conseille pas plus que ça, mais bon, c'est amusant. Quand je suis tombé, alors c'est très étonnant, parce que, en fait, le livre, c'est une édition, j'ai lu de poche, que j'ai trouvé dans une boîte à livres à la gare d'Austerlitz à Paris. Alors, c'est assez marrant parce que en plein cœur de la gare d'Austerlitz à Paris, il y a, vous savez ce qu'on appelle des boîtes à livres, les gens déposent des livres et en prennent d'autres. J'en viens en train à prendre, je suis tombé sur les tribulations d'un Chinois en Chine il y a peu de temps. Et alors, je ne veux pas surtout le lire. Et à un moment, ils sont sur un bateau, ils tombent à l'eau parce qu'ils sont ensemble, ils sont trois. Et là, j'ai lu une page et j'avais l'impression que je comprenais rien. Parce que Jules Verne explique que c'est une sorte de combinaison qui permet à la fois de flotter, d'être isotherme. Un peu aussi magique que le baluchon de mon livre. Sauf que là, elle avait une particularité mais que je n'arrivais pas à visualiser. C'est qu'ils ont voulu dire qu'il y avait un trou dans l'orteil pour mettre un mât. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend là ? Jules s'emporte. Et comme ce livre est illustré, mais de manière assez intelligente, que c'est souvent les illustrations sont quelques pages après. Et je suis tombé sur cette image, là j'ai tout compris. Donc en fait, c'est un moyen qui permet là, de voyager couché sur le dos, avec un mât dressé, donc tu vois bien comment ça tient, mais dans la semelle, et une petite voile. Donc, ce qui permet de se déplacer sans effort et en plus, vous pouvez le voir, en fumant la pipe. Je crois que les personnages en bas à gauche fument la pipe. Voilà. Ouais. Donc, c'était particulier. Quoi.
Il n'y a pas de pagaie.
Non, c'est que le vent. Alors après, ce que j'ai remarqué, mais ça, je pense que c'est historiquement beaucoup plus. Ça vous avérait. Non seulement les Chinois avaient, bien avant nos concitoyens et nos proches, inventé la brouette, mais ils avaient fait beaucoup mieux. Ils avaient, et depuis fort longtemps, utilisé des brouettes à voile. Donc, leur brouette était munie d'un mât, il y avait une petite voile, et quand on marche le vent dans le dos, la brouette avance toute seule. C'est même pas mal d'avoir inventé ça avant que... Voilà, qu'il en soit l'heure, quoi. Et donc, où est-ce que j'ai mis ça ? Parce que, en fait, on en revient un peu au point de départ, quoi. Je veux dire, la méthode étant d'essayer de restituer une réalité un peu inconnue du monde, il faut soit utiliser des stratagèmes particulier soit en fait déplacé. Voilà. Les modèles, et pas seulement les littéraires, mais aussi les modèles, je dirais, technologiques. Parce que, comme tout le monde, nous sommes habitués maintenant à voyager assis. On voyage assis. Dans les trains, Moi, j'ai eu la chance, une fois, c'était un truc très particulier, c'était un Tupolev, transport de chars de l'armée soviétique, un décollage en avion debout, c'est très particulier parce que c'est une sensation parce que on sent vraiment qu'on décolle parce qu'on est debout, surtout avec un verre gel la main parce que dans l'armée rouge on aime boire. Donc en fait nous avons l'habitude de voyager assis. Et le simple fait de, voilà, dans les trains, dans les voitures, voilà, bref, il n'y a que dans les autobus urbains où on peut être debout quand il n'y a plus de place assise. Ça serait... Mais voilà. Mais en fait, ça change tout parce que quelqu'un qui se promène à pied, il va être totalement disponible au monde, en fait, parce que marcher est devenu un geste tellement naturel et spontané que il va oublier qu'il marche, de la même manière que lorsqu'on est assis au bord d'une fenêtre dans un train, on oublie qu'on est assis, mais qu'on avance quand même. Alors que celui qui découvre le monde à la nage, il peut pas s'arrêter de nager, en fait. Donc il est tout, mais c'est un effort et c'est une contrainte beaucoup plus forte. D'autant plus que la natation permet quelque chose de très particulier, qui est ce qu'on appelle la nage sur le dos. La nage sur le dos, qu'on appelle aussi parfois le dos crawlé, c'est une nage qui consiste à se coucher sur le dos et, battant des pieds, enrouler les bras derrière sa tête. Alors la particularité est double, c'est que d'abord, on ne voit pas où on va, puisqu'on a, voilà, on est presque face au ciel, et surtout, on est sur le dos, donc on est à l'envers. Non pas à contre-courant, mais à l'envers. Donc, la nage sur le dos, la possibilité de la nage sur le dos, c'est la possibilité de marcher à l'envers, en fait. Voilà. Et donc, d'avoir un rapport complètement différent. Par exemple, quand je marche, si je vois, par exemple, un arbre, je vais marcher vers l'arbre. Alors que si je nage sur le dos et que je passe sous un arbre, je vais m'éloigner de l'arbre que j'ai vu. Donc tout est à l'envers, en fait. Et donc, la seule chose que j'ai pas pu atteindre, c'est comment écrire à l'envers. Donc voilà, comment faire que la langue s'inverse aussi. Mais j'ai essayé. Il y a des moments où, voilà, on sent que les images du monde s'éloignent tout en étant présentes. Ce qui est... Alors, autre particularité, à un moment, sur la carte, c'est pour la peine, tout le monde l'a vu, le nageur emprunte le canal de Briard, donc, qui avait été conçu par, je crois que c'était Sully, ou un truc, voilà, bref, pour relier la Seine à la Loire, donc la France à la France. Et la particularité, c'est que ce canal, comme les plus anciens, a un très faible tirant d'eau, en fait. C'est que, en fait, il y a moins d'1,80 m d'eau. Alors que le canal du Midi, il y a à peine plus. Et je crois que les canaux anglais font 1,65 m de profondeur. avant que monsieur Fraissiné n'invente son gabarit qu'il impose partout. Maintenant, il y a... Donc, ce qui veut dire qu'il y a des canaux où on a pied. Enfin, ça dépend de la taille. Si on est un peu grand, on a pied. Mais on a de l'eau. Voilà. On a pied, mais sans avoir pied. C'est-à-dire qu'on est allé à, voilà, on est à la limite d'avoir pied. Donc c'est une autre expérience, c'est de savoir qu'on pourrait marcher, mais qu'il faudrait presque avoir la tête sous l'eau. Donc à un moment, on se dit, mais pourquoi pas marcher sous l'eau? Alors ça pose des problèmes respiratoires, et la durée du livre est insuffisante en termes d'adaptation darwinienne pour qu'il arrive à avoir un système respiratoire. Donc, en termes de méthode, donc, il y a plusieurs éléments qui viennent en fait à chaque fois, mais tout est tendu vers la même chose. C'est à la fois une restitution du monde, mais une volonté de déceler toujours ce qui est le plus inconnu dans le monde, dans l'apparence du monde, ce qui peut nous amener vers autre chose. Et en particulier, cette idée, on a du mal à se représenter si on ne l'essaye pas, c'est la durée de la natation. C'est-à-dire que la plupart des gens ou les périodes de vacances, tout ça, qui nagent en piscine. Je connais quelques gens qui sont des véritables nageurs. Ils vont à la piscine et pendant un temps que je trouve terriblement long, ils nagent. Mais le problème, c'est qu'ils font des allers-retours dans un petit bassin. Ils font des longueurs, comme on dit. Voilà. Donc, en fait, la natation produit des longueurs. Ça pose un problème littéraire intéressant. Parce que écrire des longueurs, ça pourrait paraître lassin. Donc il faut trouver le moyen de contrecarrer la logique pure de la natation qui conduit à parcourir des longueurs. Et en fait, le seul moyen, je pense, de circonvenir, c'est l'exercice de la liberté, tout simplement. C'est-à-dire que dire que celui qui se lance dans un projet qui, au fond, on vient de le voir, ne tient pas debout, au sens strict du terme, ne tient pas debout parce qu'on voyage couché, il a liberté folle de ne voir que ce qu'il souhaite retenir, même avec la plus grande fidélité. C'est-à-dire qu'en fait, il est libre. D'autant plus libre que il y a énormément d'endroits qui jalonnent son parcours où les panneaux se répètent, qui écrivent sans cesse en rouge sur fond jaune, souvent baignade interdite. Donc, se baigner est un plaisir, mais voyager à la nage, c'est la violation d'un interdit. Donc, c'est peut-être une des clés du mythe.
Merci.
Merci. Peut-être pas du tout, mais presque.
Oh, pas mal, ouais, super. Peut-être dire aux étudiants oui. Qu'il y a tous les livres qui sont à la bibliothèque.
Non, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils vous.
Et puis, peut-être voilà. Prendre le temps de questions.
Ben voilà, parlons un peu ensemble. Donc,
ouais, peut-être à mieux, parce qu'on est dans l'obscurité, ça nous endort. Thank you.
Personne ne nage ici ? Où ça ?
Bah, pratiquement toutes les rivières que vous avez mentionnées.
Ah oui ? Et pas le canal de Briard ?
Non, pas nickel. Alors moi j'ai une question quand même sur... normalement, avec tout ce temps-là, au niveau de l'eau, on doit se sentir animal au bout d'un moment.
Oui.
Et puis, il y a l'aspect des odeurs aussi, vous en parlez dans le...
Je crois que je parle d'un peu de tout.
C'est vraiment tous les sens. Je ne sais pas le seul, mais toutes les descriptions sont vraiment basées sur les sens.
Oui.
Vous sucez un galet de la Garonne, assez longtemps. Des sons de la Garonne. Ouais, les odeurs, les couleurs.
Oui. Oui, parfois, il se nourrit même de produits qu'il trouve sur les berges. Il n'y a pas toujours des auberges au bord de l'eau, hein, je veux dire. Même si la seule chose, c'est que progressivement, il s'interdit un peu de manger du poisson. Heureusement, sans doute un sentiment de fraternité qui monte.
Moi, j'ai des crevisses.
Oui. Non, mais j'ai dit progressivement. C'est pas voilà. Oui.
Oui. Au tout début.
Oui. Oui, le pauvre, il a pas mangé grand chose ce jour-là. Oui, parce qu'après, comme je dis, la liberté, c'est qu'on s'amuse aussi. Donc, il y a une sorte de, c'est vrai, de description un peu ironique de ce qui est devenu aujourd'hui l'ex-pays de la gastronomie, quand même. Parce que c'est vrai que on ne mange pas toujours très bien. Quand même.
Sujet de poissons, comment se retrouve-t-il à être pêché? Excusez-moi, je n'ai pas lu.
Ah bah,
normalement on mord dans un appât, enfin le poisson. Enfin,
non, mais là c'est
la cuillère.
Mais là c'est comme si la pêche à la ligne. La ligne vient se ficher. Mais comme il avance bouche ouverte, si. Alors c'est vrai que. On est toujours à la limite de l'invraisemblable. Mais c'est possible.
Voilà. C'est pas invraisemblable, je confirme.
Ah, vous avez été pêché ?
C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui n'aiment pas avoir passé des gens. Et donc, ils pêchent dessus.
Oui.
Les hommes sont...
Oui, à la traîne, c'est dans le même.
Non, tu passes en bateau et...
Il casse le fil, le fil reste accroché au bateau.
Tu t'accroches
juste avant
aux lignes, et du coup, tu as plus à les
voilà, oui.
Et tu fais insulter aussi.
Oui.
Quand vous êtes kayakiste, des hameçons dans le gilet de sauvetage, c'est pas
grave. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je reviens toujours à la même chose. Le fait, c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant du fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont parlé comme si j'avais moi-même nagé partout. C'est parce que je me suis attaché à ce que tout soit plausible. Je dis pas que tout est vrai, mais tout est au moins plausible ou vraisemblable.
Pour écrire sur le motif, vous avez parcouru les pays.
Ah oui, ça, oui. Oui, mais là, c'était... d'abord, ça posait des problèmes techniques, parce que écrire, non pas dans l'eau, mais presque, le papier n'aime pas l'eau, l'encre non plus, les téléphones encore moins, je connais pas, est-ce qu'il existe des claviers étanches pour utiliser son... Oui, mais après, en fait, c'était presque comme il y a un moment, c'était comme une production cinématographique. Je savais que je partais pour faire... voilà, j'avais un temps de voyage. J'allais parcourir un peu à la nage quand même, mais pas tout. Mais au moins, être là où... Voilà, je voulais être partout où le nageur passerait.
Il y a un premier chapitre qui ne fait pas partie de ce parcours, qui
comme première expérience dessus.
Oui, un prologue.
Voilà, qui... Ouais, je me suis dit, tiens, ça a l'air vrai. Ça a l'air d'être une expérience qui fonde l'idée. Et tu me trompes, hein, ouais, je fantasmais comme ça. Et puis, il y avait ensuite... Il y a 3 ou 4 chapitres qui sont au futur. Ce qui est pour moi un truc... Enfin, j'avais jamais lu des chapitres de au futur.
C'est vrai qu'un... voilà, c'était... Bah, outre, déjà... l'incertitude que la description du monde au futur crée une sorte de décalage qui est, on l'a bien compris, était un des enjeux du livre. Donc, mais il y avait aussi une autre intention. C'est qu'au départ, bon, comme vous l'avez dit, parce que je pense que tout le monde n'a pas lu le livre, ça commence par un prologue qui se passe d'ailleurs à la frontière belge. C'est pour ça qu'après, le but, c'est de revenir à la frontière belge en partant de la frontière espagnole, qui est une petite... espagnole, ça commence par une simple, véritable baignade, mais où le personnage... s'emporte un peu et se dit mais ça marche très bien, je pourrais rêver ou imaginer que je voyagerais à la nage. Et il termine en disant à ses amis qui étaient là, oh ben je vous laisse, moi je rentre à la nage. Et donc fin du prologue, la traversée commence et il en parle au futur. Il dit je vais me jeter du pont parce que la Garonne franchit la frontière espagnole à un endroit qui s'appelle le pont du roi. Et c'était bien pour moi que en fait il commence vraiment le pied sur la ligne de la frontière. C'est la traversée de la France à la nage, mais c'est pas l'Espagne, hein. Ça commence juste sur le pont. Et donc, il dit, ben, voilà, je serai sur le pont, je plongerai. Donc, on se dit, voilà, il pense que peut-être qu'il... Voilà. Et à un moment, mais c'est... Oui, je crois qu'il y a peut-être même plus de pages que ça, je ne sais plus. On bascule vers le présent, et après, le présent devient la réalité. Voilà. Mais le passage de l'un à l'autre, je ne sais pas trop comment il est...
Ben, je crois qu'on se pose pas la question, c'est ça qui est...
Oui, voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Oui.
On commence à lire au futur et ça devient dans l'impossible. Et du coup, c'est ça qui est assez réussi, c'est une spéculation qui devient une chose. C'est pour ça que, je pense qu'une des forces du roman, c'est d'être accompagnateur, en fait, de ce personnage. C'est-à-dire que l'utilisation du jeu, je ne suis pas du tout critique littéraire, je fais des bêtises, mais elle me semble permettre une proximité à l'expérience qui devient une chose qui est partagée. Quoi. Et ça, c'est vraiment très fort. Et puis, comme quelque chose d'entraînant. Après, j'ai envie de plonger avec le personnage. Je sais que, hop, je savais un environnement. C'est Et c'est pour ça que la question des sens, elle est... La question de Cécile, c'est vrai, c'est-à-dire que vraiment, les sens sont mis en jeu dans la lecture. Entendre, voir, le goût, les odeurs. Et en fait, ça appelle. Enfin, moi, je me suis baigné, puis je nage un peu, ou bien, ça me rappelle des choses, donc je commence à être dans une forme d'empathie avec ce personnage. Je crois que c'est... En fait, ce qui est assez beau dans l'introduction, vous dites, on vous demande si le récit est vrai, mais on a envie, je crois que c'est qu'on a envie que le récit soit vrai, que ce soit pas possible.
Mais moi, je dis, il est presque vrai, en fait, parce que le nageur pourrait dire, dans ce livre, tout est vrai, sauf moi. En gros, voilà. Donc, c'est vrai, si tout est vrai. Pour lui, voilà, c'est pour ça que c'est vrai que la force de l'exploitation de cette convention de la première personne, c'est que, mais on peut le vérifier de manière très simple, c'est-à-dire que si vous voyez écrit il a faim, Ouais, bon, il a faim, oui, ça arrive à tout le monde, quoi. Voilà. Alors que s'il a écrit j'ai faim, ah, c'est plus pareil, parce que là, c'est voilà, ça devient vital si j'ai faim. Ensuite, la faim, bon, enfin, c'est là, il y a une force assez étrange dans le dans la première personne du singulier, en fait, qu'on peut exploiter. Donc.
Quelle est la première intention qui fait que vous avez choisi ce sujet?
Je pense que c'est le titre. Si, parce que j'ai vraiment. Voilà, je m'en rappelle très bien. C'était. Je traversais le massif central en voiture. Et je me dis, c'est quand même marrant, on est toujours en train de longer des cours d'eau, parce que toutes les routes, c'est vieux comme l'homme, ça, les premières grandes voies, c'était des voies navigables, quoi. Et c'est quand même curieux que, alors que historiquement et géographiquement, mais on le voit bien, la moitié des autoroutes françaises longent les grands fleuves. Hein. L'autoroute, il y en a un qui longe la Loire, il y en a un qui longe la Garonne, il y en a un qui longe le Rhône, enfin, il y en a... après, des fois, il coupe, mais quand même. Et donc, je me suis dit, oh, ce serait marrant d'imaginer de traverser la France à la nage. Et donc, ça y est, le verre était dans le fruit et il a fallu que je le fasse. Mais je pense que si j'avais été allemand, j'aurais écrit, je sais pas comment on dit ça, mais la traversée de l'Allemagne à la nage. Parce que il y a quand même quelque chose, on n'a pas parlé de ça, c'est que je tenais à faire un vrai portrait de la France quand même. Et je pense que c'est aussi un vrai portrait, ben, voilà, d'une France du début du 21e siècle. C'est pas la France éternelle, quoi. C'est la France, voilà. Avec des silures, voilà, ils mangent des kebabs et voilà, c'est ça. C'est ça aussi la France aujourd'hui.
Moi, j'ai en tête un film de Ristik, un biomètre comme ça, qui personne ne connaît peut-être,
Aguirre
ou Colère de Dieu.
Ah, si, si, bah, si, oui. Oui. Oui, avec Klaus Kinski. Oui. Mais lui, il est sur un.
Est-ce que l'immersion de votre personnage le rend insensible à des questions d'approche de folie, telle qu'on le voit dans le film de...
Oui.
Est-ce que le fait d'être immergé, d'être en primaxé. Côté osmotique, on peut accéder à l'élément, à l'ambiance, fait qu'il se détache du coup de plein d'interrogations existentielles.
Oui.
Parce qu'il a l'air très optimiste, quoi. Il plonge, oui. Il sort de la piscine, quoi.
Oui. Ben non, moi, là, c'est
pas du tout une période d'interrogation.
Sur un moment, il est sur le point de renoncer en plein milieu, une petite crue d'ailleurs, mais je crois que c'est dans la Loire d'ailleurs, et il est quasiment sur le point d'arrêter tout pour aller prendre le train. Mais c'est vrai que j'avais estimé d'entrée qu'il ne s'agissait pas d'un roman psychologique. J'étais pas là pour explorer la psychologie du personnage. Par contre, il était très important, il est encore d'ailleurs, pour moi, que cela déclenche chez le lecteur des réactions psychologiques telles que celles que vous. Et en fait, je fais tout pour les suggérer plutôt que de les dire. Et donc, après, il y a besoin. Il y a des pages entières qui sont tendues vers cette possibilité, mais je ne voulais pas l'expliciter d'une manière évidente. Je préfère que ce soit le lecteur qui la sente monter, parce que il y a ça plus d'une fois. Par exemple, à un moment, je crois que c'est au bord du Loing, il couche ou il mange, je sais plus. Je crois qu'il dort dans une petite auberge où il y a dans l'entrée un bassin avec une anguille. Et il semble partager à travers la vitre de l'aquarium l'envie de s'enfuir, de quitter le bassin. Voilà. Donc là, mais moi, je fais juste dire, voilà, il y a une anguille, et il a l'impression qu'elle a envie de sortir de son aquarium, et que lui, il aimerait bien aussi peut-être passer à autre chose. Mais donc voilà, mais je ne lui fais pas dire. Mais c'est l'anguille qui le dit, je dirais, voilà, en gros. C'est l'anguille qui le fait, je pense, qu'il fait sentir au lecteur. Voilà, c'est une autre manière d'envisager pour moi, la seule psychologie qui m'intéresse en littérature, c'est celle que je déclenche chez le lecteur et non pas celle que je lui envoie, quoi. Voilà, moi, je suis pas là pour me donner des dans tous mes livres d'ailleurs. Il y a pas de... mais il y a
le sujet, en tout cas, il y a une espèce de grande solitude. J'ai l'impression des personnages. Il y a le fait qu'ils mènent quête, que ça soit une obsession, c'est-à-dire la voiture, le feu.
Le feu, oui, le feu.
Qu'est-ce que j'ai perdu du coup de la fille Mais je sais plus ce que je voulais dire.
C'est ça, mais voilà, je n'utilise pas les ressorts psychologiques auxquels on est accoutumé. Voilà.
Mais plus dans la traversée, il y a quand même l'idée, parce que pour revenir sur la question de Thierry, il y a quand même l'idée d'une odyssée.
Bien sûr.
C'est pour ça que je dis que c'est à contre-courant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a une forme aussi déceptive, c'est-à-dire il échoue dans un sens, il abandonne, d'infini, mais il abandonne. Je peux pas gâcher tous les livres.
Mais c'est mieux.
Une espèce de retournement à chaque fois qui.
Il abandonne, mais il est à quelques mètres du but. Donc ça va, quand on a fait tout le reste.
Oui, mais justement, c'est sans plus absurde qu'il abandonne à ce moment-là. Oui. Mais je sais pas, dans l'homme descend la voiture, là, à la fin, et voilà, même sur le. Enfin, sur la montée-descente, c'est peut-être un peu différent. Mais...
Bah, c'est Noël.
Peut-être. Non, je sais pas, j'essaie de voir comment on pouvait décrire la psychologie, en fait. Elle est là, et pourtant, voilà, elle est là, mais elle est en tension, et elle est nous face à, justement, à pas savoir la donner. Mais peut-être que dans Aguirre, il est beaucoup plus allumé, quoi. Il est complètement taré avec un monde qui n'existe pas. Alors que votre personnage, il est dans...
Oui. Il me semble qu'à la fin, Aguirre, il est sur un lac et il bouge plus. C'est ça la fin.
Mais je l'ai
plus. Et puis en fait, il termine dans l'immobilité, quoi, alors qu'il était parti pour.
Pour être en mouvement. Pour être le roi du monde, quoi.
Oui, dans un nouveau monde.
Est-ce qu'il y a encore des questions?
Vous dites que c'est pas un héros ni un super-héros si on est dans une odyssée, mais quand même, moi pour l'instant je suis en train de le lire, donc je me suis arrêté à Muret là, sur les berges de la Garonne, qui en fait sont des berges que je connais très bien depuis Saint-Béa jusqu'à Toulouse. Et en fait, il nage, alors je sais plus quelle est la saison là, c'est l'automne, je pense.
Oui, l'automne.
Et c'est pas un super-héros, mais quand même, il nage. Alors j'ai pas bien compris s'il nageait avec une combinaison ou pas.
Non.
Non, donc en fait, c'est, il peut se permettre ça. Déjà, on est au-dessus d'une humanité ordinaire.
Oui, non, mais c'est quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un héros, ce n'est pas un surhomme. C'est pas du tout la même chose, parce que pour moi un vrai héros, il faut être humain, sinon il n'est pas un héros. Alors que s'il était capable de nager à 50 km/h, voilà, ça serait plus. Voilà, il nage comme un homme, il nage pas plus. Il a froid.
Il a froid.
Mais c'est-à-dire pour ça qu'il s'arrête. Parce que c'est vrai, parler d'une ellipse, c'est une ellipse climatique. Hein.
Moi, c'était
très bien. Après, oui, mais.
Une main qui frôle sa main, il nage avec quelqu'un d'autre. Là. Puis il trouve une palme. Elle est jaune, je crois.
Oui, après, oui, une palme d'or. Oui. Mais si, parce qu'il y a un moment, parce que à l'automne, l'eau est encore pas encore trop froide. Le pire, c'est quand il repart au printemps. Et bien évidemment, sa compagne avec qui il a passé l'hiver lui offre une combinaison. Donc il repart avec une combinaison. Mais le problème, c'est que très vite, elle se détériore parce que bien évidemment, les chutes, les rochers, toutes les péripéties abîment ça. Et de la même manière que tout est. Donc quand il fait froid, il a quand même une combinaison, mais qu'il va perdre. Et c'est parce qu'en fait le vrai moment physiquement rude, c'est le lot, parce que c'est le premier moment. Tout le reste, le début, c'est qu'il dévale. Voilà. Quand il commence à affronter le courant et qu'il se rend compte qu'il n'avance plus, c'est là que par miracle, ce qui n'en est pas un. Il trouve une palme. Alors le problème, c'est qu'il n'en trouve qu'une. Et qu'après, comme il remonte, il arrive à Qajar, si vous connaissez Qajar, où il y a beaucoup de. Il y en a moins maintenant. Des marchands de produits balnéaires. C'est très marrant, en plein milieu de la campagne, parce qu'il y a, il y a un plan d'eau. Et ils vendent des palmes. Sauf qu'il veut. Et en prendre qu'une. Bref, voilà, on s'amuse quand même. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Fantaisie. Fantaisie.
Eh bien, merci.
Ben voilà, je crois. Merci. Voilà. Merci. Merci.